Instant Liberté.
Une émission goupillée par Fred et Hervé qui vous fait découvrir, dans les conditions du direct, les artistes locaux.
Coucou les auditeurs des RVM, c'est Yves Usuro, la deuxième.
Pris d'une rage cannibale, d'une anthropophage passion, clouant le bec à la morale, je mets de l'eau dans ma raison. Le nez cloué dans tes photos, je deviens païen pour un rien, je dors avec la tentation de vendre mon âme au démon. De vendre mon âme au démon. Oh, j'aime ta rate, tes omoplates, ton pariétal et ton frontal. Amstram, gram, bourré, bourré, ratatam. Ton anatomie de nana, de la tête aux pieds m'a damné. Moi qui cherche le nirvana, me voilà bien dévergondé. Ton bel organisme fascine mon air optique et ma rétine. J'ai l'estomac dans les talons à l'idée d'aimer tes poumons. À l'idée d'aimer tes poumons. Oh, j'aime ton haine, ton abdomen, ton duodénum et ton sternum. Amstram, gram, bourré, bourré, ratatam. Quand je dépose sur tes reins mes maxillaires volontaires, je vois onduler tes deux seins, je sens palpiter tes ovaires. Je veux effleurer ta vessie, ainsi qu'aussi ton doux coccyx, ma frénésie pour ton squelette. Fais contracter mes oreillettes. Fais contracter mes oreillettes. Oh, j'aime ta viande. J'aime tes glandes. Tes ventricules. Et tes globules. Amstram. Ram, bourré, bourré, ratatam. Voguant de carpe en fémorale, de carotide en vésicule, je déclare sentimental mon amour pour tes molécules. On va tout perdre, mon amour, faut s'inventer l'éternité. Quand l'un de nous deux sera mort, j'irai faire empailler ton corps. J'irai faire empailler ton corps. Oh, j'aime ta moelle, ton encéphale, ton cubitus, ton humérus. Amstram, gram, bourré, bourré, ratam. Stram, gram, bourré, bourré, ratam. Stram, gram, bourré, ratam. Stram, gram, bourre, bourre, erata. Stram, gram, bourre, bourre, erata.
Eh bien, les auditeurs, vous êtes bien sur RVM 93.7, hein. C'est Yves Usuro qui se lâche complètement, là.
Radio Cannibale. Hein,
voilà, c'est ça. On a eu droit à un cours d'anatomie, en plus, donc voilà, dans cette chanson. Bonjour, Hervé.
Super. Salut tout le monde. Bonjour. Salut Yves.
Bonjour.
On retrouve Yves pour une deuxième émission, hein, puisque
deuxième
là,
session. Ouais.
Voilà. Donc tu vas nous expliquer pourquoi on fait cette deuxième session, Hervé.
Alors, deuxième session, parce que la première, c'était les chansons de Brassens, les chansons inédites de Brassens. Et là, on retrouve Yves pour un album double CD qui s'appelle Mirifique, Miraisin, Enragé, Volontaire, comme on veut.
Ouais.
Et ce sont ses propres chansons.
Donc ça, c'est la
parole
cause...
et musique.
C'est propre, la cause du Covid-19 qu'on te retrouve dans cet état-là, Yves, alors.
Alors, pour ceux qui connaissent un peu Yves, ces chansons-là, il les porte depuis des années, des années, des années. Ces chansons-là, on pouvait déjà les voir dans les spectacles qu'il faisait. faisait des spectacles dans les cafés historiques ou des choses comme ça, ou à Ivry, au théâtre Léo Ferré à Ivry, ou d'autres spectacles, mais jamais il n'avait enregistré un CD. Et tous ses amis le tannaient depuis des années et des années en lui disant « On veut un CD, on veut un CD ». Alors il s'est dit « Bon, je ne vais pas les satisfaire, je ne vais pas faire un CD, je vais en faire deux ». Voilà.
C'est-à-dire qu'il y avait de quoi en faire deux. Quoi.
Voilà. Voilà, exactement.
Je me suis dit « Bon, bah, je vais en faire d'une pierre deux coups ». Et donc j'ai fait deux CD avec deux titres différents, puisqu'il y a deux, on va dire, deux univers deux, un peu différenciés.
Deux ambiances un peu différentes. Ouais. Donc, paroles et musique.
Paroles et musique de Ma Pomme.
Ouais. Ah, c'est un boulot, alors, voyons.
Donc, les gens qui te connaissent comme interprète de Brassens, là, ils vont être un peu déstabilisés.
Bah, j'espère bien.
Rien à voir. Rien à voir.
Rien à voir avec
là,
Brassens.
Là, c'est ton univers qui n'a rien à voir avec celui de Brassens.
Voilà. Je suis d'accord. Oui, oui, c'est mon univers à 100%, quoi. Il n'y a pas de... Non, non, il n'y a aucune passerelle sur Brassens. Et d'ailleurs, je ne pense même pas à Brassens quand je chante mes chansons, quand j'en écris. Ça ne me vient pas, quoi. Ce n'est pas naturel.
La seule passerelle, c'est que tu as les mêmes musiciens.
Et voilà, c'est
ça. C'est des amis, donc on les garde. Quoi.
Voilà, c'est les mêmes musiciens fidèles et excellents, donc je ne me sépare pas d'une équipe qui gagne.
Donc là, on peut parler du trio, parce que souvent, c'est un trio quand même. Là, y a, on dira après deux, trois mots, parce qu'il y a plus de musiciens quand même.
En studio, quelques
amis qui sont venus en plus, mais... Ton trio, c'est Pierre Debiem et Anne Gouraud.
Anne Gouraud, à la contrebasse, et tous les deux aux voix aussi. Ils font des participations vocales assez inattendues et intéressantes.
Donc, tes inspirations, c'est quoi, alors? Parce que là, c'est difficile de trouver les inspirations de tes chansons.
Oui, je ne sais pas.
C'est pas le journal, c'est pas la vie de tous les jours.
Non.
C'est...
Je ne sais pas d'où ça vient, c'est mon univers un peu.
Là, on a commencé par une chanson un peu...
Un peu
louve
dingue, oui. Ouais. Bah, en fait, j'ai une idée qui me traverse l'esprit, et puis je la saisis au passage, et puis je l'explore. Je veux voir jusqu'où elle me mène. Et bon, bah là, j'ai eu l'idée d'un amour un peu cannibale, comme ça. Ouais. Et puis voilà, en fait, je ne sais pas où je vais quand j'écris une chanson. Je fais confiance à l'inspiration, comme on dit, et après, il faut mettre la forme. Mais je découvre moi-même ce que je suis capable d'écrire. Et ce que je suis capable de faire. Et alors, comme je suis, je me répète, mais c'est important, comme je suis un homme de scène, je suis comédien, ma chanson, elle prend vraiment toute sa force et toute sa plénitude en scène. Mmh. C'est là, par exemple, moi, il y a des chansons que j'ai créées en grande partie en scène. Mmh. Par exemple, il y en a une, bon, c'est une chanson à rallonge, c'est du spectacle. Chanté, c'est Coin Coin Canard. Coin Coin Canard que j'ai mis dans les bonus. Ça se passe dans un asile de fous. Mais au début, j'avais écrit une première chanson en alexandrin. J'avais, je sais pas, 12 strophes des alexandrins hyper chiadés avec une rime riche, une rime féminine, une rime masculine, etc. J'avais passé des heures à faire ça. Et quand j'ai eu fini, j'ai eu envie de me lâcher et j'ai écrit Coin Coin Canard en 5 minutes. Ah. C'était « J'ai des poules et des canards dans ma basse-cour à Copenhague. J'ai des poulpes et des calmars dans mon vivier à Montpellier. » Et j'ai tout décliné comme ça, ça a duré 5 minutes. Et puis après, quand je suis arrivé sur scène avec cette chanson, j'ai improvisé entre ce qui était écrit. J'ai commencé à raconter des choses au public. Et j'ai vu que là, ça accrochait. Ouais. Et au fur et à mesure que j'ai reproduit cette chanson en public, j'ai ressorti les choses qui fonctionnaient en public. Et cette chanson a été terminée véritablement face à un public.
Donc en fait, tu fais des chansons à voir.
Chansons à voir.
Plutôt qu'à écouter, c'est ça.
Les deux, en fait, les deux. Et c'est bien, ta remarque est judicieuse, parce que c'est pas évident de passer d'une scène où on est vu, hein, on voit mes mimiques, on voit mes grimaces parfois, mais sur un disque, ça n'existe plus, ça. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à d'autres arrangements, et d'autres arrangeurs, d'autres musiciens, il y a un violoncelliste, enfin une violoncelliste en l'occurrence, il y a un autre guitariste qui est venu s'ajouter à la liste, Gilles Quétin, pour le swing, il y a un saxophoniste qui est venu, voilà. Tout ça c'est pour un petit peu renforcer l'aspect disque, 100% auditif, mais on n'a plus les yeux, voilà.
Comment on enregistre là quand on est auteur, compositeur et interprète? Comment t'enregistres d'abord ta guitare à toi, après tu fais venir tes...
Tout à fait.
Comment ça se passe? Il y a des échanges par internet, des partitions, choses comme ça?
Alors ça peut se faire, mais En fait, moi, je fais d'abord l'arrangement en ce qui me concerne, c'est-à-dire que je fais ma voix et ma guitare dans mon studio.
C'est une maquette.
C'est une maquette. Je fais juste la guitare, ma voix, et puis j'ai l'orientation de la chanson. Je sais ce que je veux.
C'est l'ambiance,
soit un rock, soit ça sera un blues, voilà.
Ouais, l'ambiance, quoi.
Voilà. Et après, on se retrouve avec Pierre Debiem, qui lui, j'ai coutume de dire que lui, c'est ma boîte de crayons de couleur. Ouais. C'est-à-dire qu'il sait faire plein de choses que je ne sais pas faire avec sa guitare synthé, avec, tous les styles de guitare qu'il joue.
Et pour expliquer aux gens, il a une guitare, en fait.
Il joue de la guitare, mais en fait, c'est
une guitare magique qui reproduit tous les instruments qu'on veut.
Ouais, c'est l'équivalent d'un synthé piano. Simplement la guitare. C'est-à-dire qu'il peut jouer du violon avec sa guitare, il peut jouer de la contrebasse, il peut jouer des percus, il peut tout faire. Donc en fait, à partir de ma voix et de ma guitare, je lui dis, tiens, bah alors là, je lui indique le style de musique, plutôt blues, alors ouais, tu pourrais pas me faire ça, ah non, ça, non, ouais, ça, ça, un peu plus. Voilà, je le dirige, et puis finalement, à un moment, paf, il y a des choses qui émergent. Ensuite, on fait venir la contrebassiste, et puis après, bon ben... Comme j'ai plein d'arrangements qui me viennent par rapport à d'autres instruments qui pourraient venir se greffer, dans la mesure du possible, soit c'est Pierrot qui les fait, Pierre Debiem avec sa guitare magique. Si on a besoin d'un petit des pizzicato, on va pas faire venir un violoniste ou 15 violonistes pour faire des pizzicato. Lui, il va les faire au synthé. Et ça passe très très bien. Par contre, le saxophoniste... alors, il y a certaines chansons... Il y a une chanson où c'est Pierrot qui joue du sax. Et il y en a une autre où c'est un vrai saxophoniste qui vient.
Il y a une chanson, c'est Pierrot qui joue du sax à la guitare.
Voilà, il joue du sax à la guitare, exactement. Ouais, c'est intéressant comme travail, parce qu'il faut adapter le jeu du guitariste, le jeu de la guitare, à l'instrument qui est rendu, évidemment. On peut pas jouer du saxophone comme on jouerait de la guitare de jazz, par exemple. Il faut faire des sons plus longs. Enfin, c'est toute une technique. Hein. Il a des pédales sous les pieds. Il change de module sans arrêt. Enfin bon, c'est spectaculaire, rien qu'à le regarder.
Vous êtes comme des bâtisseurs, quoi. Ça se monte au fur et à mesure.
Oui, c'est ça. Voilà.
Donc c'est couche par couche. Et puis à un moment, ça y est, tu arrives à trouver ce que tu avais besoin. Quoi.
C'est tout à fait ça. Ouais. C'est comme au cinéma. On filme... des choses, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire, puis après on fait le mixage. Alors là, le mixage, c'est encore un gros travail. Ça.
Et après, tu poses la voix en dernier.
Pose la voix en dernier. Quand tous les instruments sont en place, plus ou moins mixés déjà, à ce moment-là, je pose ma voix définitive. Et ensuite, il y a la deuxième partie du travail qui est le mixage. Donc c'est l'équivalent du montage au cinéma, c'est-à-dire on regarde tous les rushs, on dit ça on garde, ça on garde pas, ça on va le mettre devant, ça on va le mettre un peu plus à droite, derrière, non, ça couvre un peu ça, ok on le remet là, et puis après ça, donc tout ça c'est un boulot très technique auquel je participe parce que je donne mon avis, mais c'est un travail que j'aime moins faire parce que j'y trouve moins mon compte sur le plan de la créativité, ma partie purement créative et qui vient de mon univers, là ça y est, j'ai fait ma partie, après c'est vraiment la technique qui prend le relais.
Toi t'as un studio d'enregistrement,
J'ai un petit studio d'enregistrement chez moi, ouais, qui me permet de faire tout ce que je veux en fait.
Ouais, donc à domicile c'est plus facile.
Ouais, c'est un confort.
Et ça rime.
Ouais.
C'est un confort. Bah,
oui,
non, mais comme dit Fred, c'est un confort.
Oui, c'est un confort.
Pour travailler, peux travailler quand tu veux, n'importe quelle heure, n'importe quel jour.
Et sans le stress.
Ouais. Oui.
Sans le stress du producteur qui est derrière, qui dit, ouais, bon, faut se grouiller les gars parce que ça coûte cher. Ouais, ça, moi, j'ai connu, et c'est vrai que ça, c'est un boulot stressant et qui n'est pas du tout adapté à la créativité. Tandis que là, c'est très, très, très paisible, en fait. Ouais. Ça permet d'explorer des pistes. Parce que si on n'a pas la possibilité d'explorer des pistes, c'est embêtant. Tandis que là, je peux me tromper, je peux explorer des pistes, puis dire, oh non, ça, c'est pas bon, mais je vais chercher autre chose. Et puis, à un moment, ah oui, ça me plaît, je garde. Et à partir de ce « je garde », je viens greffer d'autres choses.
Comment se passe l'écriture pour toi? Tu écris des petits morceaux de chansons, tu écris, tu as des petits morceaux un peu partout, tu as un cahier.
Je prends des notes que je ne regarde jamais. Donc, je me demande pourquoi je prends des notes.
Est-ce qu'une chanson, tu l'écris d'un coup? Ou tu as des petits bouts par-ci, par-là, des petits morceaux?
Tout est arrivé. Par exemple, il y a une chanson, j'ai mis 15 ans à l'écrire. Ça ne veut pas dire que tous les jours j'étais dessus. Mais j'avais le refrain, c'est My Love.
Ouais.
My love. Voilà. Notre amour est un volcan qui s'éteint. Je m'en aperçois bien quand on s'étreint. c'est de la guimauve, My Love. J'avais ça pendant 15 ans dans ma tête. Ah ouais. Et j'arrivais pas à trouver la suite.
Tu l'avais pas écrit, tu l'avais dans la tête, simplement.
Enfin, j'avais écrit le refrain, enfin, ouais, le ça, petit... c'est quelques lignes. Ouais. Et puis, bon, j'avais essayé. Mais tu dis, bon, alors, faut que je la termine. Mais ça marche pas comme ça, en fait. Et puis, je partais sur des trucs, ça m'intéressait pas. Et puis, un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, je n'en sais strictement rien. Je me lève un matin, toc, et toute la chanson est venue. Comme s'il y avait un travail souterrain qui s'était fait, sans que je m'en rende compte, et toute la chanson est venue d'un bloc. Voilà. Et il y en a d'autres. Sois raisonnable et mange ta soupe, j'ai écrit ça, j'étais étudiant, j'étais au cours Simon, en plein mois de juin, comme ça, hyper chaud, j'avais ma guitare, j'étais coincé entre le mur et la guitare, et le nez sur le mur. C'est une toute petite chambre. J'avais ma guitare, j'avais pas encore d'enfant, et puis j'ai écrit Sois raisonnable et mange ta soupe. Ça m'est venu comme ça. Et puis j'ai exploré cette piste, et puis ça a donné cette chanson. Et il y en a une autre, alors là, parce que ça répond à ta question, comment je m'y prends, j'ai pas de recette, en fait. Un jour, j'animais, enfin pendant tout un week-end à Paris, j'ai animé un stage d'interprétation de la chanson. Donc il y avait des chanteurs potentiels, débutants, et puis des musiciens. Donc ça a duré. Et le deuxième jour, qui était un dimanche après-midi, je leur dis, ok, maintenant, avec tout ce qu'on a vu, vous allez pouvoir mettre sur pied un petit spectacle d'un quart d'heure, 20 minutes. Donc pendant 2 heures, ils se sont enfermés dans une salle, et moi, pendant 2 heures, j'avais rien à faire. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé dans une pièce, alors c'était du côté du boulevard Bonne Nouvelle, c'était dans un ancien monastère. Je l'ai découvert, en approfondissant, je suis descendu dans une espèce de sous-sol, où là, j'avais... une espèce de toit, de plafond, typique des monastères, avec des voûtes comme ça et des colonnes. Et alors, j'étais tout seul dans cet endroit, et j'ai commencé à faire ça. Et je me suis dit, waouh, la résonance, c'était magique. Et puis d'un seul coup, il y a des mots qui me sont venus, par rapport à la résonance et par rapport à ce tempo que je me lançais. Voilà, et toute la chanson est venue comme ça. Toute une chanson m'est tombée dessus littéralement. Et ça s'appelle Babylone. Oui. La lune est toujours là, au-dessus de nos têtes. Et au début, je la chantais comme ça. J'avais pas de rythmique, j'avais pas mis d'accord dessus. Et je la faisais comme ça.
Ah ouais.
La lune est toujours là, au-dessus de nos têtes. Le Nil coule tranquille, Kéops est content. La Mésopotamie nourrit ses amis. L'Ibis vole près de l'aigle blanc. Mais, Babylone, Babylone, partie en fumée. Babylone, partie en fumée. Babylone, 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 Babylone. Nabucodonosor, t'es plus qu'une idée, comme les dinosaures, comme les dinosaures, Babylone, Babylone. Et toute la chanson comme ça. Et alors, mon souci. Mon souci.
Ça paraît facile comme ça.
Mon souci, ça a été de recueillir ces phrases qui me tombaient littéralement dessus. Oui. C'est-à-dire, je ne voulais pas altérer le mouvement qui s'était enclenché, je ne savais pas ce qui se passait, et j'écrivais. La lune est toujours là au-dessus de nos têtes. Ouais, ça, je sens bien. Le Nil coule tranquille. Je ne me posais pas de questions, ça venait comme ça. Voilà. Voilà comment j'ai écrit certaines choses.
Il y a deux Yves Zureau en toi, alors, c'est ça.
Mais je pense qu'il y en a un qui crée comme ça. En...
Ouais.
Voilà. Il y a une espèce de lâcher-prise complet. Voilà.
Dédoublement.
Ouais, on peut appeler ça comme ça, oui. C'est... Non, mais j'ai pas de recette.
On écoute autre chose ?
Ah bah écoute, moi j'ai un CD qui est prêt. Dis-moi ce que tu veux, Hervé.
On avait dit quoi ? À la belle vie ? Sur Mirifique, Miraisin.
Je veux mon nom sur les monuments. Je veux qu'on admire ma sépulture. Qu'on s'incline abondamment sur mon ossature. Comme héros de la dernière, on verra ma gueule au dictionnaire. Au milieu de la ville crânera mon squelette viril. Demain on s'en va à la guerre. Pan, pan, pan. Mort, mort, mort.
belle vie. Ah, la belle vie. Je veux que mon fils ressemble à mon fusil, qu'il soit longé dans l'étendard. Pas de biberon, une ration. C'est un homme à présent. Comme victime de la dernière, on verra sa gueule sur les civières. Au milieu de la ville fleuriront nos squelettes tranquilles. Demain, on s'en va à la guerre. Pam, pam, pam. Mort, mort, mort. Youpi, youpi. À la belle vie. À la belle vie. Depuis longtemps que l'on s'endormait, attiré sur du carton pâte. Bah, les pattes, même les cul-de-chatte prennent les jambes à leur cou. Comme invalides de la dernière, ils retrouveront leur guibole aux osphères. Au milieu de la ville danseront nos squelettes fébriles. Demain, on s'en va à la guerre. Pam, pam, pam. Mort, mort, mort. Youpi, youpi. À la belle vie. À la belle vie. Par nos muscles, nos sexes, nos canons, autant dire notre intelligence, nous ferons des nations un concert de silence. Comme mutants de la dernière, on fera de la poussière dans l'univers. Au milieu des missiles flamberont nos squelettes en péril. Demain, on s'en va à la guerre. Pam, pam, pam. Mort, mort, mort. Youpi, youpi. À la belle vie. À la belle vie. Laï, 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 laï. C'est l'heure de la morale, celle qui fait mal, qui fait penser. À demain, nom d'un chien, chien de fusil, chien de vie. Comme couillon de la dernière, on verra nos gueules dans la lumière. Au milieu des fossiles pleureront nos âmes en exil. Comme couillon de la dernière, on verra nos gueules dans la lumière. Au milieu des fossiles pleureront nos âmes en exil. Demain, on s'en va à la guerre. Pan, pan, pan. Mort, mort, mort. Youpi, youpi. À la belle vie. À la belle vie.
Bravo.
À la belle vie.
Ah oui,
à
la belle vie.
Ah, c'est une chanson antimilitariste.
Tu crois?
Alors comment? Non mais comment ça t'est venu ça? C'est un événement, chose comme ça qui te. C'est lié à quelque chose?
Oui, j'ai fait mon service militaire et j'ai vu ce qu'il y avait à voir. Je pense que ça s'est traduit à travers cette chanson. C'est-à-dire j'ai vu des gens qui se prenaient très au sérieux sur le fait de bah, d'une certaine façon, de tuer les autres, quoi. Mmh. Hein, pour des raisons X, mais peu importe, c'est toujours la même chose. Et qui formaient les autres, à savoir moi et mes copains, pour faire la même chose. Donc je me suis retrouvé dans des situations totalement surréalistes, que je prenais absolument pas au sérieux. Et j'ai déclenché des choses inattendues. C'est-à-dire que je me rappelle très bien un soir de Noël, à l'armée, j'étais à Toulon, être monté sur une table devant des gradés et avoir fait des sketchs pour caricaturer les positions du tireur couché, du tireur à genoux, etc. Tout le monde était mort de rire, même les hauts gradés, et le lendemain, je me suis fait convoquer chez le colonel. Zuro, vous n'auriez jamais dû faire ça.
Ah oui.
Voilà. Bon. Donc, c'était assez étonnant. Et puis, bon, j'ai vu des choses comme ça. Du coup, je pense que j'avais des choses à dire sur ce sujet. Voilà. Et je les ai dites de cette façon. L'absurdité de la guerre et des gens qui aiment faire ça.
Mais c'est une chanson que tu as écrite il y a longtemps ? Ou c'est les réflexions que tu as eues
Non,
qu'il y en a après avec l'âge réflexion qui
non,
vient.
Non, j'ai écrit ça. Cette chanson, j'ai dû l'écrire. Alors, ça me revient. Moi, je vois toujours où j'ai écrit les chansons. J'ai fait ça dans une chambre de bonne aussi, mais à Bruxelles cette fois-ci. Voilà. Je suis monté le matin, j'ai écrit cette chanson, je suis redescendu dans l'après-midi, la chanson était faite.
Ça t'est revenu des souvenirs que tu avais eus ?
Oui, oui, enfin, je ne sais même pas, je n'analyse pas en fait.
C'est un coup de gueule ?
Oui, c'est un coup de gueule, oui. C'est un coup de gueule, oui. C'est un coup de gueule, un coup de projecteur sur l'absurdité de la guerre et de l'engagement dans cette direction.
Des militaires de carrière.
Des militaires de carrière, oui.
Qui veulent voir leur nom en haut, en haut de l'affiche.
Et qui se retrouvent avec leur nom sur des monuments aux morts, quoi. Et qui sont fiers de ça. Donc c'est triste parce que ça raconte une partie de l'histoire de l'humanité, évidemment. La guerre, c'est la chose la plus terrible qui puisse arriver.
Et moi, je voulais savoir, Yves, le fait d'être comédien, est-ce que ça t'aide, toi, pour mettre en texte tes chansons et les interpréter ? Parce qu'il y a un côté comédie, quand même, dans tes chansons. Quoi. On sent que tu aimes bien partager avec le public. Donc ça t'aide, je suppose.
Tout à fait. Oui, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les chansons, je les termine en scène, en fait.
Oui, c'est ça, oui.
Quand je répète, je sais que j'aurai un public en face de moi. Et là, je passe à la phase expression scénique.
Ce que tu voulais dire, Fred, c'est tu y penses quand tu écris ?
Non.
Non, d'accord.
Non, j'écris. Quand j'écris, j'écris. Mais après, quand je me mets à l'interpréter, je découvre moi-même la chanson à ce moment-là. Il y a une espèce de double fond dans mon écriture. Et parfois, quand même, il y a des choses que je sais que je n'exprime pas, enfin que les mots n'expriment pas exactement ce que je veux dire, mais je sais que le complément scénique arrivera pour donner vraiment l'expression à 100% de ce que je veux dire.
Et puis la scène, c'est le moment où tu sens si ta musique elle est acceptée par le public ou pas. C'est là que tu ressens les retours. Quoi.
Absolument, oui. Il y a des chansons, je les ai écrites, je ne m'attendais pas à ce que les gens réagissent de cette manière. Donc je me dis, tiens, c'est une chanson marrante. Ah oui, c'est une chanson comique. Et puis il y en a d'autres. Par exemple, il y en a une qui s'appelle Rococo Slow. Un jour, j'ai écrit cette chanson qui est une chanson hyper romantique. Au premier degré, je me suis dit, oh merde, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Je ne me voyais pas chanter ça. Et d'un seul coup, l'idée m'est venue de faire chanter ça par un vieillard tremblotant en trafiquant ma voix.
Et ça a donné ça, une sorte de vieillard comme ça. Qui chante.
Et en fait, qui se rappelle sa jeunesse et l'amour qu'il a connu à cette époque. Voilà. Mais c'est l'appel de la scène qui m'a fait transformer cette chanson, sinon je ne l'aurais pas chantée, parce que je n'allais pas chanter ce que j'avais écrit. Là. Ça, ce n'était pas possible au premier degré.
Et à l'inverse, il y a les chansons que tu abandonnes, parce que tu vois qu'elles ne rencontrent pas de public. Ça t'est déjà arrivé, non ?
Oh, sûrement, mais je ne me rappelle plus trop. Il y a des chansons que j'ai écrites et que je n'ai jamais chantées en public, parce qu'elles sont trop longues.
Ou pas de résonance avec le public.
Ouais, c'est-à-dire que moi, il faut vraiment que j'ai quelque chose à défendre sur scène. Il faut que ça. Je veux créer un impact tout de suite. Je suis pas un chanteur lyrique. Je suis plutôt. Quand je me mets dans le lyrisme, ça devient caricatural. J'aime forcer les choses, en fait. À une époque, les gens disaient, enfin, ceux qui faisaient des interviews ou des articles, ils disaient que j'étais un chanteur de bande dessinée. C'est un peu ça, quoi.
Pour toi, il n'y a pas de barrière entre la scène et les spectateurs.
Non.
Tu pourrais chanter au milieu des spectateurs.
Ah oui.
C'est ça.
Ouais, ouais.
Plus que sur scène.
Oui, j'ai fait beaucoup de cabarets, ça aide aussi, parce que les cabarets, les gens, ils sont tout près.
Oui.
Ils sont en face de toi, tu les vois, tu vois leurs yeux, tu vois leurs regards. Puis parfois, je descendais au milieu du public.
Ouais. Moi, je te connais un peu. Tu as fait aussi des spectacles où les gens viennent et mangent.
Oui.
Ça doit être quand même assez difficile de chanter quand il y a la moitié des gens qui viennent pour manger, pour t'écouter, non?
Ça
forge un peu le caractère ou pas?
Ouais, ça dépend.
C'est un peu compliqué, non?
C'est un peu compliqué. Bah, c'est pas l'idéal, évidemment, parce que les gens, quand on fait un spectacle, on s'attend à ce que les gens mettent 100% d'attention sur ce qui se passe sur scène. Quand les gens mangent pendant qu'on chante, y a forcément une partie de l'attention qui va sur ce qu'ils sont en train de bouffer. Donc c'est au détriment de l'attention qu'ils mettent sur ce qui se passe sur scène. Ça m'est arrivé, hein. Mais il y a des organisateurs qui font ça très bien, c'est-à-dire qu'ils font en sorte que les gens mangent d'abord, et après le café, on ne sert plus personne. Alors, les gens sont toujours attablés, ils ont toujours un verre de vin qui traîne quelque part et qui est en général plein par anticipation de la durée du spectacle. On entend des bruits de fourchettes, on entend des bruits de verre, on entend des bruits de... Mais ils sont plus en train de manger, quoi, c'est fini. Bon, ça peut passer, ça c'est l'aspect cabaret.
Ouais, c'est une école un peu difficile quand même.
Ouais, mais
ça forge le caractère ou ça?
Ça forge, oui. C'est-à-dire qu'il faut rester dans sa chanson, faut occuper l'espace qui est le nôtre, sans être déstabilisé par l'espace du public qui n'est pas un public à 100% attentif. Voilà.
Surtout que toi, tu as des paroles, donc il faut écouter les paroles. Ou d'autres chanteurs, ou c'est plutôt la musique qui prend le dessus sur les paroles. Toi, il faut écouter quand même ce que tu chantes quand même.
Oui.
Il faut être attentif.
C'est ce qu'on appelle de la chanson.
Voilà. Bah oui. Mais c'est pas le cas de ce qu'on entend souvent
sur
les ondes.
Hein, oui. Oui, c'est tout à fait ça. Oui. C'est même pas le cas du tout. Là. Mm. Oui. Mais on n'est peut-être plus vraiment dans la chanson. Enfin, on n'est pas dans la chanson traditionnelle française qui raconte une histoire avec des paroles qu'on peut comprendre, avec une diction appropriée, etc. Voilà. Non, ce qu'on nous sert à la télé, où c'est de la soupe, c'est véritablement de la soupe. C'est, à mon avis, ça va passer parce que c'est pas intéressant, c'est même pas talentueux. On a l'impression que les gens ils font pas d'efforts pour faire des belles chansons et pour il faut vendre. Je sais pas en fait, je me sens pas concerné par ce qu'ils font. Par contre, on parlait d'EPM tout à l'heure, le distributeur, là. Voilà quelqu'un qui s'intéresse à la chanson telle qu'ici, dans ce studio, on l'aime tous. C'est-à-dire la chanson traditionnelle, on écoute, les gens ont des choses à dire, ils le disent à leur manière. Il y a des musiques qu'on peut chanter, dont on peut se souvenir, il y a des vraies mélodies, voilà. Donc ça existe. Il y a plein de chanteurs comme ça qui existent, qui vivent plus ou moins bien de leur art, qui sont pas connus du grand public, qui sont connus de gens un peu attentifs à ce qui se passe ailleurs. Voilà.
Ah, c'est le but de notre émission. Hein.
C'est tout à fait le même esprit.
Voilà. Et éventuellement, si on te proposait d'écrire pour d'autres personnes, tu le ferais, Yves, ou tu l'as déjà fait peut-être?
Alors non, je l'ai pas fait. Si je l'ai fait une fois pour... mais ça n'a pas fonctionné, donc j'ai pas fait. Par contre, Sacha Distel m'a pris une de mes chansons. Alors ça fait aussi partie des belles histoires que j'aime raconter. Moi, j'aime bien les belles histoires. Oui, je peux la faire.
Tu vas nous l'interpréter.
Je sens.
Sentait Hervé qui était impliqué sur le coup de la musique là, qu'elle est arrivée. Hein.
Peau neuve.
Je vais vous raconter comment ça s'est fait.
Ouais. Oui,
si ça vous intéresse.
Bon. Évidemment.
Un jour, je vais voir... quelqu'un me dit, tiens... Je vais chez Sacha Distel aujourd'hui, je sais que c'est un gars qu'il aime bien. Il cherche des chansons, il lui manque deux chansons sur son prochain disque. Je crois qu'il va m'en prendre une, me dit cette personne. Est-ce que tu veux venir avec moi, m'accompagner? Bien sûr. Allez, c'est Sacha Distel. Moi, quand j'avais 9 ans, j'étais très très fanatique de Sacha Distel. Je connaissais toutes ses chansons, j'avais 9 ans, je les chantais comme ça. Donc... La personne en question fait affaire avec Sacha Distel, qui lui dit « Ah oui, je prends ta chanson. » Et puis, d'un seul coup, la personne dit « Tiens, mais Yves aurait peut-être une chanson, si t'en manques une, qui pourrait t'intéresser. » Donc, Distel me dit « Ok, prends une guitare. » Il y avait 15 guitares dans son salon. Je prends une guitare. J'avais pas ouvert la bouche encore, j'avais rien dit. Je m'étais juste contenté d'être témoin de ce qui se passait. Et je lui chante... un couplet et un refrain de la chanson, il m'arrête, il me dit « c'est bon, je la prends
».
Voilà.
Ah oui,
et là, à ce moment-là, je lui dis Ok, écoute, je vais te dire maintenant une chose, c'est que moi, quand j'avais 9 ans, je connaissais toutes les chansons d'un certain Sacha Distel. Mmh. Et là, il se passe la chose suivante, c'est que je me mets à chanter les chansons de l'époque. Aïe, 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 ma mère a décidé de me marier. Et Sacha Distel embraye, et je me retrouve à chanter avec Sacha Distel les chansons de l'époque. Et c'était génial, quoi. Pendant un quart d'heure, on a chanté. Ouais. Aïe, 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 ma mère a décidé de me marier. Il y avait plein de chansons. Ouah, 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 ouah. Ça ne peut pas durer comme ça. Ouah, 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 ouah. Hein, c'était super, quoi. Donc, on est devenu, je dirais pas qu'on est devenu potes, hein, parce que, mais c'était un gars très sympa. Il me tenait au courant de l'évolution de l'enregistrement du disque. Allô, Yves, tiens, on enregistre ta chanson demain, est-ce que tu veux venir? Évidemment, je venais, j'ai été dans le studio et voilà, j'ai assisté à l'enregistrement de Distel. C'était très très chouette. Ouais. Et voilà la chanson en question, telle que je lui ai chantée chez lui. Dès l'essence sans souffrir, tracas et soucis, je délie sans sourciller mes poings et mes pieds. Pas question de m'assoupir, il est temps de m'embellir. Pas question de m'endormir, peau neuve, tiquetungégué. J'ai fait peau neuve, peau neuve. Délaissant sans rougir, pagaille et tourment, je dédie sans maquiller à qui veut pleurer. Mon sac à dos de soupir, ma hotte de mauvais temps. Pas question de m'enlaidir. J'ai fait peau neuve. J'ai fait peau neuve. Peau neuve. Hey, wago, 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 yo, wing, daddy, wing, nine, 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 nine. Je dévie sans sacrifice ma roue d'édifice. Pas question de m'engourdir, il est temps de m'embellir. Pas question de m'endormir. Peau neuve, tu que ton gongé, j'ai fait peau neuve. J'ai fait peau neuve.
Ah, ben, super, hein.
Super, ouais, c'est bien. Donc, Yves, comment tu as découvert ta voix? Parce que, comédien, tu avais déjà une voix, je suppose, pour faire pas mal de choses. Mais pour chanter, qu'est-ce qui a été le déclencheur, alors?
La scène.
La scène,
je
ouais.
Je me suis retrouvé sur scène, et puis, pour chanter, après avoir fait des études de théâtre, bah après, c'est sur le terrain. Moi, j'ai appris sur le terrain, en fait.
Tu travailles ta voix?
Non,
ou pas?
Jamais.
Jamais?
Ben non, jamais, non.
Ah ouais. Il y a beaucoup de chanteurs qui travaillent, ils sont obligés de travailler, ça, chauffer, machin, tout
ouais,
ça.
Ouais. Enfin, avant de rentrer en scène, ce que je fais, c'est des petits exercices techniques pour clarifier la voix. Pour, bon, c'est des choses de base de respiration, quoi, pour que les cordes vocales soient prêtes à s'exprimer pendant 2 heures d'affilée. Mais sinon, non, mais...
Même genre, pour apprendre à respirer?
Alors, apprendre à respirer, là, il y a une technique.
Ouais.
Il y a une technique qui est classique, hein, qui est la colonne d'air. Je ne vais pas vous faire une démonstration technique ici, mais non, en mais fait, c'est assez simple.
Moi, j'ai vu Nougaro prendre des cours enfin, avec sa mère. J'ai vu Reggiani qui prenait des cours aussi avec une prof pour apprendre à respirer.
Oui,
quoi.
Oui, bien sûr, ouais. Moi, je n'ai jamais vraiment appris ça.
C'est naturel.
J'ai découvert les choses en les faisant, en me trompant, en me cassant la voix, et je me suis dit, bon, c'est pas normal, pourquoi je me casse la voix sur certains passages. Voilà, et puis maintenant, bon, bah, j'ai eu ma technique. J'ai eu ma technique, et une grande partie, une technique d'autodidacte. Hein. Je suis autodidacte pratiquement pour la guitare, autodidacte pour les arrangements, autodidacte pour chanter. Oui, voilà, c'est, j'ai appris sur le terrain, en gros.
Ouais, parce que quand même, 2 heures de concert, hein, faut quand même les tenir. Hein, donc,
Oui, il faut les tenir, mais sur le moment, quand j'y suis, je ne fais pas attention. Hein.
Ouais.
Là, j'y vais à fond, et puis au bout de 2 heures, bah, je réalise que j'ai fait 2 heures de spectacle et que j'aurais pu en faire 1 heure de plus, facile. Il y a une énergie qui s'empare de moi, en fait. C'est pas, évidemment pas l'énergie du désespoir, c'est l'énergie du grand plaisir de se retrouver face à un public pour pouvoir exprimer de manière unique et définitivement unique, puisqu'un spectacle, c'est jamais 2 fois la même chose. Donc là, il faut y aller, quoi. C'est pas le moment de faire semblant.
Mais quand on est sur scène, on est dans un autre monde. Parce qu'on parle de plein d'artistes qui sont un peu comme ça. Ils sont malades, ils ont la fièvre, ils ont ci, ils ont ça. Et dès qu'ils sont sur scène, ils sont transformés, transfigurés.
Oui, c'est pas faux du tout. C'est pas faux du tout. On est dans un monde... on est d'abord dans son propre monde, en général. Et on rend ce propre monde visible à d'autres. Donc c'est une occasion unique de montrer qui on est. Et c'est super intéressant. C'est vrai qu'il se passe des choses miraculeuses. Moi, je me rappelle, au théâtre, on m'avait demandé de reprendre un rôle au pied levé d'un comédien qui ne pouvait plus assurer son rôle pendant un certain temps. J'avais reçu la cassette VHS à l'époque de la pièce de théâtre. Et le rôle était important, le gars était sur scène pratiquement tout le temps. J'ai appris le rôle sans rencontrer les comédiens, ni rien, juste en regardant la pièce de théâtre. Évidemment, il fallait que je me mette à l'envers, parce que je voyais ça en tant que spectateur. Il fallait que je reprenne les mêmes mouvements de scène du gars, les mêmes déplacements, etc. Et le jour du spectacle, c'était à Noyon, au théâtre municipal, je me rappelle très bien, c'était en 89, c'était une pièce sur la Révolution française. Et là, je devais tellement... j'étais quand même angoissé par l'épreuve qui m'attendait, parce que je n'avais même pas répété avec les comédiens. J'étais mais plié en deux, j'avais mal dans le dos, j'avais un torticolis épouvantable, mais épouvantable, à tel point que ma fille, qui avait 8 ans à l'époque, était venue m'accompagner dans les loges pour me saper, pour enlever ma chemise. Ça prenait énormément de temps et j'étais coincé. Je suis arrivé sur scène coincé de chez coincé, et au bout de 10 minutes, j'ai réalisé que tout était fini.
Ah ouais.
J'étais complètement libéré, décoincé... physiquement, voilà, et ça s'est très bien passé.
L'adrénaline, oui, c'est ça.
Oui, il y a une magie qui se passe, une magie réparatrice, certainement. On raconte, par exemple, que Madeleine Renaud a joué avec une jambe cassée.
Ouais.
Et tout s'est bien passé. Et à la fin de la pièce, elle a retrouvé sa douleur.
Ouais.
Et moi, je n'ai pas retrouvé mon torticolis.
Tant mieux.
Pour revenir à l'album, là, c'est quoi tes influences à toi?
Sincèrement,
T'écoutes quoi comme musique? T'écoutes quoi comme chanteur?
J'écoute pas grand-chose, en fait. J'écoute pas grand-chose.
Ah bon?
Non, moi j'écoute, mais j'écoute pas beaucoup de musique, en fait. J'aime beaucoup Nougaro, j'aime beaucoup Brel, j'aime Léo Ferré, j'aime les grands classiques comme ça, mais j'écoute pas beaucoup de musique.
Ah
mais
oui.
Je suis... De temps en temps, je me repasse un DVD de Brel, un spectacle complet, ou un DVD de Léo Ferré, et je suis impressionné par la grande qualité de scénique de ces gens-là. C'est-à-dire que, pour moi, il y a des gens qui font des choses bien, il y a des gens qui font des choses très bien, il y a des gens qui sont excellents, et puis il y a des gens qui sont géniaux.
Ouais.
Voilà, et ceux que je viens de nommer, pour moi, ils sont géniaux. C'est des maîtres absolus, quoi. C'est des gens qui... Ils sont sur scène, mais c'est fabuleux. Quand on voit Nougaro sur scène, comment il chante, comment il se déplace, comment il bouge, comment ses musiciens sont derrière, c'est la perfection. C'est la perfection.
Mais quand tu vois Brassens sur scène...
Ben c'est la perfection aussi.
Il ne bouge pas. Et
non, il ne bouge pas.
Rien,
mais c'est
ou Ferrat, ou Reggiani, ces gens-là, et sur scène, il y avait le micro, pof, il ne bougeait pas.
Ben oui, mais il y avait quelque chose. Il y a un univers affirmé qui est fait de perfection aussi, qui est fait de beauté, qui est fait d'esthétique, qui est fait de savoir-faire. Ce sont des artisans, véritablement.
Quand tu regardes les DVD, pour t'inspirer un peu de ça, de ce qu'ils font, de dire bon ben comment on peut capter le public et tout ça.
Alors certainement, vu que je me dis pas, mais simplement je les admire. J'ai de l'admiration pour eux. Je ressens cette admiration quand je regarde ces gens-là en scène. Je m'imprègne certainement. C'est une espèce de flux de puissance qui est nourrissant, qui arrive en moi. Puis après, bon, je sais pas ce qui se passe.
Mais tes références, c'est que les grands, quoi. Que les grands classiques, en fait.
Ouais.
Il n'y a pas, chez les jeunes, il n'y a pas...
Actuellement, non. Je suis désolé de le dire.
Quelques jeunes qui pourraient...
Non. Absolument pas. Je ne vois pas, je n'arrive pas à trouver qui serait à la hauteur de ces gens-là.
Qui écrivent un peu de manière originale ou choses comme ça.
Sincèrement, non.
Non.
Désolé.
Ouais, après, bien sûr, il y a aussi tous les producteurs, tout ça. Et derrière, ils formatent aussi des gens pour vendre. Hein, voilà. Donc, c'est peut-être que ça coupe aussi. Moi, je pense que ça coupe aussi l'originalité. Les gens comme toi, bah, vous n'êtes pas mis en avant quoi, par rapport à d'autres qui n'ont aucun talent, mais parce qu'ils sont produits par telle ou telle maison. Mmh, oui. Pour parler, on les produit. Quoi.
Oui, et puis à l'époque, il y avait ce qu'on appelle des directeurs artistiques.
Oui,
le fameux Jacques Canetti qui a fait quand même découvrir Brassens, qui a fait découvrir Félix Leclerc et ainsi de suite. C'est des gens qui s'intéressaient aux artistes et qui ensuite, une fois qu'ils avaient repéré un artiste talentueux, ils lui donnaient les moyens d'exprimer son talent, de le mettre à l'abri d'un tas de choses en disant ok, voilà, c'est comme si on disait à un artiste ok, bah, tu t'enfermes pendant un an si tu veux dans un endroit, tu fais tes chansons, tu veux des arrangeurs, ok, tu veux des musiciens, tiens, les voilà. Alors là, les gars, ils proposaient quelque chose qui tenait la route.
Les radios aussi avaient plus d'indépendance.
Les radios aussi, oui, certainement. Oui. Maintenant, je ne sais pas comment ça se passe, mais quand j'écoute des radios musicales, je suis quand même surpris de ce qui se passe. Parce qu'on n'entend pas beaucoup de chansons françaises.
On entend beaucoup de chansons. Les répertoires sont assez faibles, quoi. On entend toujours les mêmes choses, quoi.
Ça, pour des raisons de vente, de produits. Voilà. Maintenant, on vend un produit. On vend une chanson comme on vend une savonnette ou un paquet de lessive. J'en suis persuadé.
Quand tu vois les propriétaires de radio, maintenant, ils sont 3-4 gros groupes à posséder pratiquement tout. Mmh. Et c'est eux qui décident qu'ils font la pluie et le beau temps. C'est ça, le problème.
Je pense que c'est ça, oui. Donc, du coup, il y a un tas d'artistes, certainement comme moi, ou comme ceux que j'ai cités tout à l'heure chez EPM et les gens que vous recevez. Bah, Louis Gallenvers, par exemple, voilà un bel exemple. Mmh. Voilà un gars qui fait des chansons superbes. Le grand public ne le connaît pas. Mmh. Moi, le grand public ne me connaît pas non plus, mais parce que parce que les gens ils peuvent se dire « Mais attends, il ne va pas chanter l'histoire du vieillard qui parle de son... » Ou « Love Story », c'est quoi cette chanson ? Voilà, donc c'est pas possible. Moi, cette chanson « Love Story », là, que j'ai chantée au début, je l'avais proposée à... Je me disais « Tiens, ça pourrait intéresser Dutronc. »
Ah oui.
Je voyais bien Dutronc chanter cette chanson. Il y a de la dérision, il y a de l'humour, etc. Mmh. Et alors, un jour, je suis au téléphone... avec Françoise Hardy. Ah. Et elle me passe un savon, le savon du siècle.
Wow.
Comment t'as pu écrire une chanson comme ça ? Comment tu peux imaginer que Jacques chante cette chanson ? Vraiment, elle était très fâchée, quoi. Bon, ben voilà, ça donne un peu l'idée de l'impact que peut avoir une chanson sur un univers différent.
Oui, on peut peut-être remettre un petit morceau de musique. Est-ce que tu veux chanter, Yves ? Oui.
T'as encore une chanson, Yves ?
Eh, j'ai encore une chanson.
Allez.
Attends, je regarde, parce que j'en ai pas tant que ça, finalement. Hein. J'en ai quand même que 30. Des larmes de sel.
Ah, voilà, super. Prendre.
Des larmes de sel.
Donc on laisse Yves s'installer.
Table basse tout près du lit, posé près du whisky, cartes postales empilées. Dehors la pluie qui fait pleurer tous les carreaux, tous les badauds, pas très rigolo comme tableau. Souvenir de Tahiti, bon baiser de Bilbao, amitié de Conakry, bien à toi de Santiago. Des larmes de sel, de sel pour celle que j'aime. Sur table basse, tout près du lit, posé près du whisky, carte postale chiffonnée. Dehors le vent me fait siffler tous ces mélos, ces trémolos. Un vrai concerto de sanglots. Gros bisous d'Acapulco, petit péco de Bamako. Je pense à toi de Mexico, à la folie de Trujillo. Oh, oh, oh. Je pleure des larmes de sel. Oh, 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 oh. De sel pour celle que j'aime. Plum, 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 plum. Sur table basse, tout près du lit, jeté près du whisky. Carte postale déchirée. Dehors la nuit qui peint en gris les amoureux dans leurs aveux. Plutôt mélancolique comme tableau. Petite pensée de Santa Fe. Je perds la boule d'Istanbul. Je déraisonne de Carcassonne. Chavire ma vie de Varsovie. Oh, 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 oh. Je pleure des larmes de sel. Oh, 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 oh. De sel pour celle que j'aime. Plum, 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 plum. Sur table basse, tout près du lit, trempé dans le whisky. Cartes postales enflammées. Dehors là-bas, mon corps qui dort, corps ivre mort dans le vieux port. Y a du désespoir dans le décor. Désolé de Callao, c'est la vie de Nicosie. Ne pleure pas de Calcutta. Trois fois hélas de Caracas. Oh, 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 oh. Je pleure des larmes de sel. Oh, 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 oh. De sel pour celle que j'aime. Oh, 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 oh. Je pleure des larmes de sel.
Merci Yves.
Des larmes de sel.
Des larmes voilà, de sel,
ouais. Sur Enragé volontaire. Alors, est-ce que tu as profité de la Covid, où tout le monde était chez soi, pour faire cet album? Tu t'es dit, tout le monde est confiné, je vais en profiter quand même pour faire ça?
Alors, une partie de l'album a été faite grâce à... ou à cause. Parce qu'en fait, j'ai bossé pratiquement 5-6 ans sur ce disque. Mmh. Entre le moment où j'ai choisi les chansons, le moment où j'ai fait ma partie guitare-voix... plus ensuite tous les instruments qui sont venus s'ajouter, la fabrication des arrangements, le mixage et le mastering.
Tu avais fait déjà une maquette
J'ai fait une maquette, oui.
Il y a quelques années déjà.
Voilà, c'est pour avoir une première idée de ce que ça pouvait donner. C'est comme, c'est un travail de laboratoire. On regarde ce que ça donne en éprouvette, et ensuite on regarde ce que ça donne dans la vraie vie.
Alors là, petit à petit, on est déconfiné, donc tu vas pouvoir reprendre des tournées.
Oui.
La vie reprend pour toi.
Enfin, la vie en scène, quoi.
Ouais, ouais.
Parce que la vie ne s'est pas arrêtée.
La vie extérieure.
Ouais, oui.
La vie extérieure.
Oui, oui, oui. Alors, j'ai pas mal de spectacles Brassens, dans lesquels je vais insérer quelques-unes de mes propres créations. Ça marche très bien. Les gens sont contents de découvrir ce que je fais.
Donc, c'est moitié-moitié,
Ah non, c'est pas moitié-moitié. Si c'est un spectacle Brassens, soit je mets 2-3 chansons à moi, quelque part à un endroit bien précis dans le spectacle, ou alors je m'offre ma première partie. C'est-à-dire, j'annonce aux gens, je fais ma propre première partie avec une 7-8 chansons à moi ou une dizaine. Ensuite, l'entracte. Pendant que j'en profite pour changer de chemise, me laisser pousser la moustache. Non, c'est pas vrai. Et puis ensuite, on revient sur scène avec les chansons de Brassens.
Comme faisait Brassens, il y avait toujours une première partie.
Voilà, c'est ma propre première partie. On n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Exact. Soi-même. Donc, tu peux, dans le secteur, pour les auditeurs, tu vas jouer?
Alors, le mieux pour les auditeurs, c'est d'aller sur mon site. Voilà, et là, il y a toutes les dates de spectacle. Enfin, mm-hmm. Celles qui sont confirmées pour l'instant. Je vais chanter au mois d'octobre, je crois, à Saint-Sauveur. Joli petit village.
Où tu habites, où
j'habite.
Tu as ton studio.
Voilà. Et il se trouve que le maire du village a complètement craqué sur mes disques Brassens et mes propres chansons. Et il m'a dit, j'espère que vous chanterez « Sois raisonnable et mange ta soupe ».
D'accord.
Ce qui est quand même très étonnant.
C'est un message pour les jeunes du village, peut-être.
Voilà. C'est ça. Non, c'est bien. C'est
donc là, tous les spectacles qui reprennent, c'est les spectacles avec tes musiciens, avec Pierre et Anne.
Pierre et Anne, voilà. Et j'en ai aussi un autre, parce que j'ai un autre spectacle Brassens avec Annick Roux, qui est un spectacle un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, qui est un spectacle, comment dire, issu du carnet de bord de Brassens. Au départ, c'est devenu un livre qui a été publié au Cherche Midi, mais qui n'était pas destiné au début à être publié. On a eu l'accord de l'ayant droit de Brassens, où Brassens notait dans ce livre tout ce qui lui passait par la tête, mais vraiment tout ce qui lui passait par la tête, de sa vie privée, perso, familiale, des réflexions sur la politique, enfin, tout quoi. C'était pas du tout destiné à être publié, mais l'intérêt de ce livre, c'est que dans ce livre, il y a le germe d'une quarantaine de chansons qu'il écrira par la suite et que tout le monde connaît. Donc ça, c'est intéressant. Jean-Paul Liégeois, qui a édité ce livre, a fait une adaptation scénique. Et ce spectacle, je le fais avec Annick Roux, qui est une comédienne. Et voilà, on illustre ce qui est sorti sous forme de livre, qui est le carnet de Brassens, en fait. Voilà.
Donc elle lit des parties du bouquin.
Elle lit des parties du bouquin. Elle chante certaines chansons, moi je l'accompagne. Et puis sinon, moi, je chante certaines chansons, voilà, qui sont évoquées dans le livre par quelques lignes, simplement. Quelques lignes que Brassens a écrites comme ça pour ne pas les oublier. Un truc qui lui traversait l'esprit et qui, par la suite, deviendra une chanson complète.
Très bien. Mais je crois qu'Hervé, on va conclure de cette manière.
Ceux qui veulent retrouver cet double album, ils vont sur le site.
Sur mon site.
Yves.usureau, voilà. U-Z-U-R-E-A-U.
Poil au dos.
Et voilà. On a toutes les informations.
Voilà. Et donc cet été, soyez curieux, hein, sortez un petit peu et allez voir des spectacles.
Exactement.
Merci Yves de ton passage à notre antenne à RVM 93.7. Hervé, on se dit à bientôt.
Eh bien, à bientôt. Merci Yves encore.
Avec plaisir.
Et
merci
donc, on
vous
prévient les auditeurs qu'on fait une petite pause au mois d'août quand même. On se retrouvera au mois de septembre.
On se retrouvera au mois de septembre.
Et donc, on finit en musique. Qu'est-ce que tu as programmé?
Allez, moi, j'avais marqué Danse macabre.
Eh bien, on finit en beauté, super. À bientôt, les auditeurs. Merci. Et merci au public qui était présent. Donc, des amis à toi, Hervé, tu peux les nommer.
Les amis de Yves. Oui. Il y avait Jacques et il y avait Daniel.
Merci à vous,
les
messieurs.
Les fidèles de toujours.
À bientôt. Bonne écoute sur RVM 93.7.
Au revoir. Salut à tous.
Faut pas perdre son temps à renifler les fleurs. Pas gâcher ses 20 ans à mastiquer le bonheur. Se dit Maître Roger sous son crâne anémique, car il est PDG d'une usine atomique. Ah. Hey, copain, hey, frangin, passe-moi un peu d'oxygène que je termine la semaine. Passe-moi un peu d'oxygène que je termine la semaine. Faudrait pas enrayer la danse des turbines. Pas question d'arrêter la plainte des machines qui détruira, verra, hurle papa neutron qui polluera, rira, rugit papa proton. Ah, ah, ah. Hé, hey, copain, hé, hey, frangin, passe-moi un peu d'oxygène que je termine la semaine. Passe-moi un peu d'oxygène que je termine la semaine. Sans guinère et gâtombe règnera le moins bon. Les deux pieds dans la tombe, c'est la loi du plus con. Une bombe à l'envers, une guerre à l'endroit. Et si t'es pas pervers, au bonheur t'as pas droit. Ah, 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 ah. Hé, copain, hé, frangin, passe-moi un peu d'oxygène que je termine la semaine. Passe-moi un peu d'oxygène que je termine la semaine.
Une émission goupillée par Fred et Hervé qui vous fait découvrir, dans les conditions du direct, les artistes locaux.